Chapitre 14. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Romy et moi avons de petits yeux et le teint brouillé lorsque nous nous retrouvons à table pour le petit déjeuner. La faute à un réveil bien trop matinal et à quelques flûtes de champagne de trop.
Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Ils font des travaux dans cet hôtel?
Je crois que c'est ta fille qui est en train d'étaler du beurre sur sa tartine de pain grillé,
me répond Romy en fronçant les sourcils. Lali suspend son geste et nous regarde tour à tour avant de se mettre à rire, ce qui a pour effet immédiat de me vriller le crâne.
Ne ris pas, ma chérie, je t'en supplie, ne ris pas.
Vous avez la gueule de bois toutes les deux, c'est ça? Pourtant, vous avez rien bu au dîner hier soir.
Je jette à Romy un regard de jeune fille prise en faute.
J'avoue tout, c'est moi qui ai entraîné ta mère. Mais pour ma défense, c'est parce que je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Trop d'excitation, sans doute. Enfin bref, il se peut qu'après que tu t'es endormie, nous soyons discrètement descendus au bar de l'hôtel pour boire quelques cocktails.
Visiblement, ils n'étaient pas virgines, raille Lali.
Les premiers, non. Mais je jure sur les poils de Rex que nous avons bu une tisane avant de remonter nous coucher. Sauf qu'il aurait fallu une bonne soupière de tisane pour compenser,
ajoute-t-elle avec malice quelques secondes plus tard.
Jamais j'aurais cru ça de toi, maman,
me lance Lali sur un air faussement choqué.
Crois-moi, vu la migraine avec laquelle je me suis levée, je ne suis pas prêt de recommencer.
Oh non! Ne parle pas de malheur!
S'écrie Romy beaucoup trop fort pour mes tempes en feu.
Je viens seulement de rencontrer Meg la rigolote, ne la renvoie pas tout de suite, laisse-lui une chance!
Je vais plutôt aller nous chercher deux tasses de café noir bien fort, parce que, au cas où tu l'aurais oublié, nous avons un peu de route si nous voulons être à Zagreb à l'heure du déjeuner.
Bah voilà, Meg la rigolote est déjà partie,
bougonne Romy. Lorsque nous quittons l'Italie pour entrer en territoire croate, j'ai du mal à retenir une larme. Même si nous n'avons passé que deux jours dans ce pays, je m'y suis sentie incroyablement bien. Comme ça ne m'était pas arrivé depuis une éternité, à vrai dire. Je me console en me disant qu'il ne s'agit pas d'un adieu, mais d'un au revoir. Quelque chose m'indique que je reviendrai bientôt puiser à nouveau de cette énergie que j'ai ressentie à Venise. Gueule de bois oblige, l'habitacle de la voiture est silencieux. Romy et moi conduisons à tour de rôle sur de courtes séquences avant de nous relayer. Difficile de faire autrement, mes yeux se ferment à moitié au bout d'à peine 30 minutes de conduite. À ce rythme, il n'est pas loin de 14 heures lorsque nous atteignons Zagreb, la tête pas encore tout à fait remise et l'estomac pas vraiment en meilleur état. Plutôt que de chercher un restaurant, nous nous laissons attirer par de multiples parasols rouges qui abritent les étals du marché d'Olac, situé à deux pas de la cathédrale. Bien que l'air soit un peu plus respirable qu'hier à Venise, il fait quand même chaud. L'ombre apportée par les parasols est appréciable. Il y a encore beaucoup de monde malgré l'heure et l'ambiance est plutôt bon enfant. Les commerçants s'interpellent les uns les autres avec le sourire dans une langue dont nous découvrons la sonorité. Les fruits et légumes qui recouvrent les tables sont particulièrement odorants et ont pour effet de réveiller notre appétit. Nous nous laissons tenter par un énorme bol de fruits frais coupés en morceaux que nous complétons un peu plus loin par du fromage et de la charcuterie. Avec l'achat d'un pain à la croûte bien dorée, nous sommes parés pour un pique-nique improvisé. Après avoir dépassé les marchands de fleurs et leurs compositions colorées, nous trouvons un petit coin ombragé pour nous asseoir à même l'herbe et déguster notre festin.
Ça manque d'une bonne gelato, mais c'est quand même très bon,
dit Romy, tout en léchant le sucre laissé par les cubes de melon sur les doigts de sa main valide.
Par contre, quelque chose me dit que niveau conversation, c'est à partir de maintenant que les ennuis commencent. Autant l'italien ne me faisait pas peur, autant le croate.
Attends qu'on soit en Bulgarie, je crois que c'est encore pire.
Franchement, si ta mère avait pu se payer du bon temps avec un amant à Saint-Tropez, ça nous aurait quand même arrangé,
lâche Romy, sans se rendre compte qu'elle vient de dévoiler quelque chose à Lali, laquelle évidemment était tout ouïe.
C'est toujours comme ça. Les enfants n'écoutent pas quand on l'aimerait et sont parfaitement attentifs quand on préférerait qu'il en soit autrement.
Quoi? Quel amant? Mamilus avait un amant?
Romy est livide et semble sincèrement embarrassée.
Je tente de la rassurer du regard. Après tout, elle ne pouvait pas deviner que je n'avais pas mis Lali au courant de la découverte des photos, alors que c'est la raison de ce voyage.
« Maman !»
insiste Lali. De toute façon, il aurait bien fallu que je lui en parle tôt ou tard, alors. C'est peut-être aussi bien qu'elle l'apprenne maintenant. « Oui, c'est exact. J'ai découvert il y a quelques jours que Mamilus avait eu une liaison. »«
Avec qui ? Et papy le savait ?»«
Je ne sais pas. Ni qui était cet homme, ni si mon père le savait. C'est pour essayer d'en découvrir plus que nous allons en Bulgarie, dans cet hôtel où ils ont passé des vacances il y a 10 ans. » Si ma fille aimait sa grand-mère, ce n'est rien comparé à l'attachement qu'elle avait pour son grand-père. Tous les deux avaient une relation quasi fusionnelle. Quand elle le voyait, son visage s'illuminait. Dès l'instant où elle a su marcher, elle s'avançait vers lui et il l'attrapait pour lui faire faire l'avion. Je n'ai jamais entendu ma fille rire autant que dans les bras de son grand-père. Je la sens chamboulée par ce qu'elle vient d'apprendre et qui met à mal l'affection qu'elle portait à ma mère. Tout ce que je pourrais dire en cet instant ne servirait sans doute pas à grand-chose. De toute façon, je n'ai aucun élément de réponse à lui fournir. Je choisis donc de ne rien ajouter et de la laisser digérer la nouvelle. Je remballe les restes de notre repas et me lève pour jeter les déchets dans une poubelle à proximité.
On y va, les filles? Si on veut pas arriver trop tard à Papouk et profiter un peu du lieu, il faut qu'on se mette en route.
Lali, le visage de nouveau fermé, se lève sans un mot et commence à se diriger vers le parking où nous avons garé la voiture, Rex sous le bras.
« Je suis vraiment désolée, » murmure Romy. « Je pensais que tu lui avais raconté. »
« Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. C'est ma faute, j'aurais dû le lui dire avant de partir, mais je ne savais pas comment. Il lui faut juste un peu de temps pour accepter. » Elle aimait infiniment mon père, et même s'il nous a quittés alors qu'elle était encore petite, elle en conserve de nombreux souvenirs. Nous roulons vers notre prochaine étape pour la nuit, le parc naturel de Papouk. À l'arrière de la voiture, Lali a les yeux fermés, la tête posée contre la vitre. Je ne sais pas si elle dort ou si elle veut seulement qu'on lui fiche la paix. Au fond, le résultat est le même.
Comment c'était d'avoir des frères et sœurs ? Je demande soudain à Romy. Elle tourne la tête vers moi, surprise par ma question, avant de fixer de nouveau la route.
Je suis curieuse de savoir quel cheminement mental t'a conduite à cette interrogation là tout de suite, alors que nous sommes en Croatie sur une route déserte au milieu de nulle part.
C'est à cause de Lali qui dort à l'arrière. Ça m'a rappelé mon enfance et les longs trajets que nous faisions chaque été pour descendre dans le sud de la France. J'avais l'impression que ça durait des jours. J'écoutais en boucle mes cassettes dans mon Walkman. Comme je suis fille unique, je n'avais personne avec qui discuter ou faire une partie de je ne sais quel jeu de société pour passer le temps. Je me suis souvent demandé comment c'était avec d'autres enfants, si le voyage paraissait moins long, si on s'ennuyait moins.
On ne s'ennuyait pas chez nous, c'est sûr. Mais je me souviens que j'ai souvent souhaité ne pas avoir de frères ni de sœurs.
Ah bon? Pourquoi?
Parce que je suis la petite dernière et qu'il y avait une grande différence d'âge entre moi et mon frère et ma sœur. Et à cause de ça,
ajoute-t-elle en me montrant le moignon de son bras droit.
« Je ne comprends pas. »
« Parce que j'étais handicapée, il fallait me protéger de tout. Si ma mère m'a toujours encouragée et poussée à aller vers les gens, au quotidien, elle faisait en sorte que rien ne puisse m'arriver. Je ne devais pas courir, je n'avais pas le droit de faire du vélo, je ne pouvais pas grimper aux arbres. J'étais son dernier enfant, celle à qui il manquait une main et dont il fallait prendre soin. Mon frère et ma sœur étaient là pour me surveiller. Cela dit, même sans qu'elle le leur demande, je crois que c'est ce qu'ils auraient fait. Parce qu'ils étaient plus vieux que moi, ils se sont d'emblée sentis investis par cette mission. J'ai toujours détesté cette petite chose fragile que je voyais dans leurs yeux. Alors que ma mère avait à cœur que j'oublie mon handicap et qu'ils ne me définissent pas, sans qu'elle en ait conscience, le fait d'être en permanence sous protection me le rappelait sans cesse. Je me disais que si j'avais été seule, ça aurait sans doute été plus simple de faire des entorses et de vivre une vie d'enfant normale.
Là, je suis ravie d'avoir posé cette belle question qui plombe un peu l'ambiance. J'ai hésité à te demander comment tu faisais pour paraître tout le temps de bonne humeur. J'aurais mieux fait d'aller sur ce terrain-là.
Ma réponse n'aurait pas été bien différente, me réplique-t-elle en riant. Je t'aurais répondu à cause de ça,
ajoute-t-elle en me désignant de nouveau son moignon.
Je me suis toujours dit qu'il fallait que je compense. Une main en moins, de la bonne humeur en plus. Parce que tu as un handicap, tu n'as pas le droit de t'apitoyer sur ton sort si tu ne veux pas que les autres le fassent. C'est ce que je me suis longtemps répété. Au final, c'est un peu une double peine que je me suis infligée toute seule. Aujourd'hui, j'apprends à m'autoriser des périodes d'apitoiement et de pessimisme. Et crois-moi, ça me demande un paquet d'efforts. Combattre 40 ans d'optimisme et de bonne humeur, ce n'est pas facile.
Je ne peux m'empêcher de sourire et de trouver ce bout de femme encore plus formidable. Si Lali et moi, on peut t'aider dans cette entreprise avec notre vague à l'âme et notre mauvaise humeur, ce sera avec grand plaisir.
J'ai su à la minute où je t'ai rencontré que tu étais quelqu'un sur qui on pouvait compter.
Nous papotons ainsi sans discontinuer jusqu'à notre arrivée à Papouk, prévue 4 heures plus tard. Romy me raconte les nombreuses formations qu'elle a suivies sans jamais aller au bout d'une seule. Pleine d'enthousiasme au départ, elle finissait par s'enlacer.
Dommage qu'il ne soit pas possible d'exercer plusieurs métiers en même temps. En ce qui me concerne, je trouve qu'une carte de visite Romy Spielmann, coiffeuse, boulangère, pharmacienne, ça aurait une certaine classe.
Curieusement, à bientôt 40 ans, elle ne désespère pas de trouver un jour sa voie. En attendant, elle participe à des jeux télévisés, ce qui lui réussit plutôt bien, et se prend régulièrement de passion pour une activité ou une autre via YouTube. Quant à moi, je lui raconte mon enfance. Ce père que j'aimais infiniment, mais que je voyais peu parce qu'il travaillait beaucoup et se consacrait à ses patients. Cette mère que j'admirais, qui me paraissait capable de gérer n'importe quelle situation et sur laquelle, inconsciemment, j'ai pris modèle. C'est plutôt doux et agréable, et lorsque nous arrivons à destination, je constate que Lali a les yeux bien ouverts. Le dépaysement est total. Fini le bitume, les magasins, la foule bruyante, bonjour les arbres à perte de vue. Le parc national de Papouk est l'écrin de verdure au milieu duquel nous avons choisi de poser nos valises pour la nuit. L'hôtel que nous avons réservé est cette fois-ci dans un style montagnard très différent. La réceptionniste qui nous accueille, après nous avoir remis les cartes magnétiques de nos chambres, nous indique les balades à faire à proximité pour le cas où nous voudrions profiter des 2 ou 3 heures qu'il nous reste avant la tombée de la nuit. D'un regard, je devine que je suis la seule à avoir envie de nature. Alors que nous nous dirigeons vers nos chambres, Romy m'annonce qu'elle passe son tour pour la marche à pied et qu'elle va plutôt profiter des bienfaits du spa de l'hôtel. Lali ne dit pas grand-chose, mais je la connais suffisamment pour éviter de lui proposer de m'accompagner. Il n'y a guère que Rex qui manifeste un vague intérêt. Ou alors c'est juste parce qu'elle voit venir lors de ses croquettes. Qu'à cela ne tienne, à peine la valise déposée sur le lit de notre chambre, j'abandonne ma fille à la série qu'elle s'est empressée de lancer sur son téléphone et me dirige d'un bon pas vers cette nature qui n'intéresse que moi. Je n'ai pas à marcher longtemps avant d'être entourée d'immenses arbres aux feuilles verdoyantes, ne laissant passer que par endroits les rayons du soleil de cette fin d'après-midi. Le chemin n'est pas trop accidenté pour mes ballerines. Je marche lentement et prends soin de remplir mes poumons de ce bon air pur. Mon oreille est attirée par un bruit d'eau et je décide de quitter le sentier principal pour me diriger vers lui. Après quelques minutes de marche sur un chemin un peu plus pentu, qui me ferait presque renoncer par peur de glisser, je débouche sur une vasque d'eau claire entourée de rochers recouverts de mousse dans laquelle vient se jeter une cascade. Je regarde cette eau tomber pendant un long moment avant de m'approcher d'un rocher suffisamment plat pour pouvoir m'y asseoir. La température a chuté et je regrette de ne pas avoir pensé à prendre un petit gilet. Pour compenser, je remonte mes genoux sur ma poitrine et les entoure de mes bras. L'endroit est parfait pour laisser mon esprit divaguer. Alors, je pense à mon petit garçon qui me manque et qui doit être à table avec son père. Je pense à cette émotion que j'ai ressentie hier en posant de nouveau mes yeux derrière mon appareil photo. À cette décision que j'ai prise et qui me donne l'impression d'être au bord d'un précipice. Je pense aussi à ma fille, mal dans sa peau d'adolescente, avec qui la communication est si compliquée. Et je pense au but de ce voyage. À l'homme sur la photographie. Cette personne que ma mère regarde amoureusement et qui n'est pas mon père. Ma mère que j'ai perdue une seconde fois en découvrant ses clichés. Ce soir, nous ne dînerons pas toutes les trois ensemble, Romy, que le bain de vapeur a rendu toute flagada, a décidé de ne plus bouger de son lit jusqu'à demain matin et de faire appel au room service pour le repas.
Je suis tombée sur une chaîne de télévision qui diffuse des épisodes de Dr. Quinn, femme médecin, m'explique-t-elle. Ce lit torse nu qui parle en croate, c'est d'un sexy. Je crois que je vais faire de beaux rêves cette nuit.
En espérant que tu ne rêves pas d'Horace.
Bonne soirée, Romy,
dis-je en refermant sa porte, amusée par sa tête catastrophée. Je ne suis pas mécontente de passer cette soirée seule avec ma fille. De cette façon, il sera sans doute plus facile de l'inciter à exprimer ses émotions. En tout cas, je l'espère. Pour le dîner, elle commande un végé burger avec des frites et moi une salade César. En attendant que nos plats nous soient montés, je me glisse dans un délicieux bain bien chaud et parfumé aux huiles essentielles. Il n'y a pas à dire, voilà la définition du bonheur. Quand je sors de la salle de bain, vêtue d'un épais peignoir d'une incroyable douceur, Lali est assise en tailleur sur le lit, les yeux rivés sur une émission croate dont, assurément, elle ne comprend pas le moindre mot. Je suis sur le point de lui parler de la découverte de Romy quand je me ravise. Elle n'a aucune idée de qui est ce lit, autant éviter de lui tendre une perche pour me rappeler que je regarde des trucs de vieux. Je m'assois à mon tour sur le lit et attrape dans le vanity le lait pour le corps offert par Malone à Noël que je commence à appliquer sur mes jambes. D'habitude, je n'ai jamais le temps de faire ça, et je ne le prends jamais non plus. Une fois mes jambes parfumées et hydratées, alors que je m'apprête à reposer le tube dans le vanity, je décide de tenter quelque chose. J'attrape la brosse à cheveux de Lali, m'approche d'elle. Son corps se raidit lorsqu'elle sent la brosse se poser sur sa chevelure. Elle tourne aussitôt la tête vers moi, sans dire un mot, le visage fermé. Je suspends mon geste, mais n'éloigne pas pour autant ma main. Je sais qu'elle ne veut plus que je la coiffe, et jusqu'à présent, j'ai toujours respecté son souhait. Mais ce soir, j'ai décidé de courir le risque. Dans ses yeux, je devine le combat entre la petite fille qu'elle était et la femme qu'elle devient. Je retiens mon souffle. Lorsqu'elle tourne de nouveau la tête vers la télévision, je sens que mes larmes ne sont pas très loin. « Ce n'est pas le moment de te mettre à pleurer. Ressaisis-toi, Meg. » Lentement, avec des gestes familiers, je lui passe la brosse dans les cheveux comme si je n'avais jamais cessé de le faire. « Tu ne dois pas en vouloir à ta grand-mère pour ce que tu as appris tout à l'heure, ni être triste pour ton grand-père. » J'ignore qui était cet homme dont elle était amoureuse, mais ce que je sais, c'est que jamais Mamie Luce n'a laissé tomber son mari. Quand il était à l'hôpital, elle lui a rendu visite chaque jour. Quand il est parti, elle était là, à côté de moi, à lui tenir la main. À ce souvenir, ma voix se brise, mais je fais un effort pour contenir mon émotion. « C'est pas pour ça que je suis triste, » bougonne Lali. « Qu'est-ce qui te rend triste alors, ma princesse ?»« J'aurais voulu que tu me le dises. Tu n'as pas eu envie de m'en parler, voilà ce qui me rend triste. » me lance-t-elle entre la peine et la colère. Alors là, si je m'attendais à ça, j'ai aussitôt envie de lui demander pardon de lui avoir causé du chagrin, mais je décide de la pousser dans ses retranchements. Pour avoir envie de se confier à quelqu'un, il faut que cette personne se confie à vous. C'est donnant-donnant en général. Est-ce que toi, tu te confies à moi? Est-ce que tu me racontes tes journées? C'est pas pareil. Et pourquoi donc? Tu as de la peine parce que je ne t'ai pas dit que j'avais découvert que Mamie Luce avait eu une liaison? J'ai de la peine quand tu ne me dis pas ce qui se passe entre Astrid, Jade et toi.
Il se passe rien!
Il y a encore quelques mois, tu leur envoyais des textos sans arrêt. Vous passiez vos soirées sur Snapchat à vous raconter je ne sais quoi, alors que vous vous étiez vus toute la journée au lycée. Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu n'envoies plus de textos? Qu'elles ne viennent plus à la maison? Que vous ne faites plus de sorties toutes les trois en ville? Tu veux que je me confie à toi? Je suis d'accord. Mais alors tu vas devoir faire pareil. C'est évidemment le moment que choisit le room service pour frapper à la porte de la chambre. À regret, je me lève pour aller lui ouvrir.
Dobra veser, room service! Bonsoir, room service!
annonce un jeune homme, les bras chargés d'un grand plateau sur lequel trônent deux assiettes recouvertes d'une cloche. Je m'écarte afin qu'il puisse entrer et déposer son chargement sur la table basse près du canapé.
« If you need something more, you can call me. »
« Si vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez m'appeler », me dit-il dans un anglais hésitant avant de quitter la chambre. Résigné, je m'approche de la table et décloche les assiettes. « Viens manger avant que ça refroidisse. » La salade est délicieuse et si j'en crois le plat quasi vide de Lali, il doit en être de même pour son burger. Je lui pique une frite avant qu'elle ne leur fasse un sort. « Si tu veux un dessert, je vois qu'il propose des milkshakes », dis-je après avoir regardé la carte. « Tu adorais ça quand tu étais petite. »«
Je peux plus rien avaler du tout »,
me répond-elle avant de finir sa canette de Coca-Zéro, de réintégrer le lit en position tailleur et de récupérer son portable. Je rassemble nos assiettes, nos couverts, ainsi que les cloches, et jette à la poubelle le sachet de mayonnaise entamée ainsi que nos serviettes en papier. J'avais l'espoir qu'elle ait reçu mon message et qu'elle se décide à me parler. J'avoue que je suis un peu déçue. À mon tour, je m'allonge sur le lit, le dos bien calé sur deux oreillers, saisis la télécommande de la télévision et pars à la recherche de Sully et de Michaela Quinn. Tant pis pour la moquerie à venir.
Il ne se passe rien avec Astrid et Jade. On est toujours amies, enfin, je crois. Juste... elles sont toutes les deux et moi un peu à part.
Elle s'est exprimée sans détacher les yeux de son écran de téléphone. Elle a l'air si triste que j'hésite à la prendre dans mes bras. J'ai eu de la chance tout à l'heure avec le brossage des cheveux. Je crois que ce sera suffisant niveau contact pour ce soir. Il y a quelque chose qui explique qu'elles soient toutes les deux et toi un peu à part?
C'est bizarre, c'est venu petit à petit. Elles se sont inscrites à un club de lecture. Elles ont insisté pour que j'y aille avec elles, mais je n'aime pas lire. Alors franchement, j'en avais pas du tout envie. C'était pas très grave, et puis c'est pas parce qu'on est amis qu'on doit tout faire ensemble. Au début, c'était cool, et comme avant. Et puis, je sais pas, ça a dû les rapprocher quand même. Elles ont commencé par aller prendre des cappuccinos, sans penser à me le proposer. Et puis Astrid a croché sur un gars croisé au café, un mec de terminale. Du coup, elles en parlaient souvent entre elles. Et puis, elles ont fini par sortir ensemble et le meilleur pote de ce type a flashé sur Jade. Il me propose de les accompagner quand ils vont quelque part, mais je me sens pas à l'aise. Ils se tiennent la main et s'embrassent et moi, je suis comme une conne toute seule à côté. La fille moche et grosse qui n'a pas de mec.
Tu n'es ni moche ni grosse.
Mais j'ai pas de mec.
Pour l'instant...
mais je suis certaine que ça ne va pas durer. Ça m'étonnerait. Personne ne s'intéresse à moi. J'ai même jamais embrassé quelqu'un,
me dit-elle, les larmes aux yeux.
Si ça, c'est pas parce que je suis moche et grosse, explique-moi pourquoi.
Elle remonte ses genoux sur sa poitrine et les recouvre de sa chemise de nuit. Cette fois, je suis incapable de me raisonner et la prendre dans mes bras.
« Bientôt, j'en suis sûre, tu n'auras que l'embarras du choix. Les garçons vont se bousculer au portillon. »« Tu crois ?»
me demande-t-elle d'une toute petite voix, la même qu'elle utilisait quand elle me faisait promettre que les sorcières, ça n'existait pas. Elle pose sa tête sur mon épaule. Je me sens minable de ne pas avoir su lire entre les lignes, de ne pas avoir compris ce qui se cachait derrière cette apparente colère. «
J'en suis certaine, ma princesse. » Fais-moi confiance.